Des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous. Comment allez-vous et comment lisez-vous? J'espère que vous vous mettez de plus en plus au livre audio. Cette émission est consacrée à ce mouvement littéraire qui prend beaucoup d'ampleur. Nous aurons l'occasion d'en parler aujourd'hui encore. Alors, pour commencer, suite et fin pour une trilogie époustouflante qui nous vient du Nouveau-Brunswick. À toi, pour toujours, mon amour, ce sont trois tomes, trois prénoms, deux femmes, un suspense vraiment très bien ficelé par Suzanne Payne, que je vais joindre par téléphone dans quelques secondes. Et puis une première à l'émission, une chronique en direct de la France où nous attend Paul Dubouchet, qui est éditrice en chef, ou je pense que c'est pas exactement comme ça qu'on dit. Comment elle se fait appeler déjà? Je l'avais noté quelque part. Voilà, directrice éditoriale d'Écouter Lire chez Gallimard. C'est donc la division du livre audio de Gallimard. Elle va nous proposer des nouveautés, mais surtout des coups de cœur qu'ils ont produits là-bas en France. Également à l'émission, je suis allée fouiner de mon côté pour voir ce que les différentes plateformes nous offraient en promotion à droite et à gauche. Alors il sera question de livres de Jean-Christophe Granger, Alfred de Musset, un petit débutant, Claire Fuller, Fabrice Caro et Violaine Huissement notamment. Et puis ça, c'est sans compter sur la rafraîchissante Marie-Ève Groux qui va nous offrir aujourd'hui une chronique en tant que lectrice et autrice d'un bouquin. Et puis, il sera question aussi de livres accessibles via l'USQLA, d'une séquence de lecture en direct consacrée à Toni Morrison, prix Nobel de littérature, disparu au mois d'août dernier. Voilà pour Des livres plein les oreilles. Je m'appelle Clotilde Seille et je suis en votre compagnie pendant 1h30. Vous me suivez ?
Marqué d'une croix la clôture de ta cour. Je suis rentré chez moi par la sortie du cours. Je me suis dit tout bas non, ce n'est pas mon jour. Son cœur est un détroit, ses yeux un carrefour. J'ai pris l'harmonica descendu dans la cour. Et dessous du lilas j'ai chanté sans détour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. L'amour est un tournoi où tombent tour à tour les guerriers maladroits noyés dans la bravoure. Si c'est ce que tu crois, si tel est ton discours, sois sûr qu'une proie deviendra ton vautour. Alors que fais-tu là enfermé dans ta tour? Je veux briser les lois qui règlent tes amours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Tu entendras ma voix dans le ciel du faubourg. J'avancerai vers toi avec les yeux d'un sourd. N'entends-tu pas déjà le conte à rebours? Ouvre ta véranda, annonce mon retour. Je foncerai comme un ours aux pattes de velours. Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Je foncerai comme un ours aux pattes de velours. Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours.
À première vue, la grande maison semble déserte. Seul le bruit de la douche et la buée qui s'en échappe trahissent la présence de Valérie qui reste là, sans bouger, les yeux fermés, le front appuyé contre la paroi de verre givré, laissant l'eau couler le long de son corps. Plusieurs minutes plus tard, elle n'a toujours pas bougé. L'eau, maintenant froide, ne semble pas l'incommoder. Elle ferme finalement le robinet. Sans entrain, elle ouvre la porte vitrée et prend sa serviette. Elle s'éponge lentement le visage et le cou, puis s'arrête. Comme si le temps avait subitement cessé de tourner, elle reste là, immobile, fermant les yeux de nouveau. Couché de tout son long sur le plancher devant la grande fenêtre, près de la baignoire, Pedro l'observe sans bouger, heureux de profiter des rayons du soleil. À ses côtés, sur le plancher, les vêtements épars et les chaussures de course de sa maîtresse. Elle était particulièrement en forme ce matin. Ils ont couru plus vite et plus loin que d'habitude. Mais Pedro n'est plus très jeune et il est fatigué.
C'est un extrait tout doux que j'avais choisi la première fois que j'avais invité Suzanne Payne lorsque j'avais lu le premier volet de sa trilogie « À toi pour toujours mon amour », d'où le choix de mon ami Mathieu Tessier de nous diffuser Richard Desjardins. Alors, le premier tome, ça s'appelait « Annabelle ». J'étais loin de me douter que le tome 2, Valérie, m'amènerait encore plus profondément dans une sorte de ténèbres. Il me semble que j'entends rire déjà, ou du moins sourire à l'autre bout. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Suzanne, on savait déjà que le tueur n'y allait pas de main morte dans Annabelle. On pensait qu'il avait été démasqué et enfermé à la fin du tome 1, je n'en dis pas plus. Et paf, un autre crime et donc un autre tueur, point d'interrogation, qui ne fait pas non plus dans la dentelle dans Valérie le tome 2. C'est assez gore, votre ambiance, vous, hein, Suzanne? À vous voir comme ça en photo, on dirait pas. Hein.
Je vous assure, je suis une personne très gentille.
Je n'en doute pas.
C'est pas la peine de changer de côté de trottoir quand vous
non,
me voyez venir
non,
dans la
non,
rue.
Non, 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 ça, je n'en doute pas. D'ailleurs, un jour, il y avait Patrick Sonécal qui m'avait dit la même chose aussi, qui m'avait dit « Je suis un être absolument charmant et je peux le confirmer.
» Ben, en fait, oui, c'est parce que ça sert à l'intérêt.
Voilà.
Pour que l'intrigue soit crédible et plausible, il faut que le fou soit plus fou que fou. Alors, il faut l'amener à un autre niveau.
Mm-hmm.
Et c'est pour ça que je suis allée là. Et puis, je vous avoue, je vais vous faire un aveu, il y a certaines scènes qui, moi, me donnaient un certain malaise.
Ah oui? Au point de les couper puis de dire non, quand même, je ne vais pas aller jusque-là.
Ah non.
Non, quand même pas.
Non,
elle dit non, non.
Ah, okay. Je les gardais quand même, mais je me disais, OK.
Oui, oui. Vous n'avez pas fait de cauchemar?
Non.
Bon.
Pas du tout.
Pas du tout.
Moi, je suis en paix avec mes personnages.
Bon. Alors, il y a donc des crimes crapuleux, c'est le moins qu'on puisse dire. Des policiers complètement perdus parce qu'ils étaient certains qu'ils avaient enfermé le bon gars.
Oui.
Et puis, dans ce tome 2, Valérie, il y a aussi Joëlle, qui est l'inspectrice, et on en découvre toujours un petit peu plus sur elle, mais pas encore assez, parce que le tome 3 va porter son nom.
Exact.
Ah ah! Cette inspectrice qui ne vit pas non plus dans un milieu très sain. Alors, contrairement aux autres, elle n'est pas une victime en tant que telle, quoique, on ne peut pas en dire de trop, mais c'est une autre sorte de victime.
Oui. Oui, elle a une vie familiale assez...
dissolue.
Ah oui, on peut certainement dire que c'est une famille qui n'est pas comme la famille idéale.
Non, famille dysfonctionnelle, comme on dit, quoi.
Ah, absolument, totalement.
L'action du numéro 2 se situe quand par rapport au numéro 1? Est-ce que tout ça est dans la suite logique? Genre oui. Le même jour, le lendemain? Non, oui?
Quand le premier tome se termine, oui. Après, on se retrouve quelques heures. Oui. Après la fin du tome 1. Et le tome 1, lui, se déroulait sur à peu près une année et demie, à peu près 18 mois. Le tome 2, comme vous l'avez probablement constaté, se déroule oui. sur 30 jours.
Oui. Et le tome 3, et... ça, je ne le sais pas parce que je ne l'ai pas encore lu. Enfin, écoutez d'ailleurs.
Il va être disponible.
Il l'est déjà parce que, oui, c'est ça, parce qu'au moment où nous diffusons l'émission, le 8 octobre est déjà derrière nous. Alors, c'est même pour ça d'accord. que je vous parlais aujourd'hui, d'accord. parce que je voulais bien préciser à nos auditeurs que les 3 tomes sont maintenant disponibles mm-hmm. sur livreaudio.vusezvoix.com. Voilà.
Oui, c'est fantastique d'avoir toutes ces plateformes. Et comme je disais tantôt, ben c'est ça, le premier c'est 18 mois, oui. le deuxième c'est 30 jours, et le troisième c'est 24 heures.
Ah oui?
Oui. Et puis là, on boucle la boucle, on finit complètement l'histoire. Mm. Bon, évidemment, là on va comprendre tout ce qui... Bon, il s'appelle Joël, donc on va certainement focusser sur Joël et sa situation, mais on boucle la boucle sur les crimes, sur tout ce qui s'est passé depuis le début du premier tome.
Alors, en dehors du fait qu'on parle d'un polar, d'une trilogie, il y a des thèmes, je pense, assez récurrents dont vous aviez envie, que vous aviez envie d'évoquer, hein, qui sont sous-jacents, en quelque sorte. Quels sont-ils, ces thèmes-là, Suzanne Payne?
Ben, il y a beaucoup le thème du mensonge. Il y a beaucoup de gens qui vivent des gros mensonges de famille dont il faut pas parler. C'est assez fréquent. Même aujourd'hui, à l'ère où on sait tout et on dit tout à cause de la technologie et tout ça, il y a encore plein de gens qui ont des gros secrets. Et aussi, un thème dont je voulais parler, que je voulais exploiter, c'était les gens invisibles. Il y a des gens qui nous côtoient, qu'on voit tous les jours, mais qu'on voit pas vraiment. Et je voulais jouer avec ce thème-là, parce que justement, mon méchant, ben c'est une de ces personnes-là, c'est quelqu'un qui est là, qui est toujours là, mais qu'on voit pas. On sait pas qu'il est là, et puis tout d'un coup, on est surpris.
Oui. Et vous donnez des petits indices, mais on trouve jamais, hein, on sait pas trop, hein. Ah, c'est agaçant! Parce que parfois, on se dit, ça y est, c'est lui. Oui, c'est lui. Et puis, pas du tout. On était dans les patates totalement. Vous nous baladez comme ça, mais ça doit pas être évident quand on est auteur, comme ça, autrice, en l'occurrence, d'un polar, de parvenir à nous balader comme ça. Est-ce qu'on saupoudre après une fois de temps en temps, dit, tiens, je pourrais peut-être ajouter un petit quelque chose là qui va les mêler encore plus. Comment on fait ça?
Mais, premièrement, je voudrais quand même dire que l'intention première, c'est pas de les mêler.
Non.
C'est plutôt de ne pas tout donner tout cuit dans le bec pour que le lecteur ait un petit peu de travail à faire quand même.
Oui, oui.
Je vous dirais qu'il y a à peu près un gros 50% des indices qui sont prévus d'avance. Et puis là, à mesure que j'avance et que je me relis, parce que je me relis probablement 3 millions de fois, je me dis, il manque un petit quelque chose, il faudrait leur donner un petit peu de bonbon. Là. Mmh. Alors, des fois, je mets des vrais indices, mais des fois, vous avez compris aussi que je mets aussi parfois des faux indices, juste pour faire...
J'ai compris, oui.
Augmenter un petit peu le... pour faire un peu augmenter le suspense. Mmh. Et puis, tu sais, pour pas que ce soit trop... Parce que quand c'est trop prévu d'avance, quand on a compris, disons, un livre de 300 pages, puis qu'à la page 22, on a déjà tout compris, pourquoi finir de le lire?
Oh non, c'est vrai, ça.
Alors, c'est mieux de garder le lecteur avec les fesses un petit peu au bout du siège, là.
Oui, comme vous dites.
Juste pour dire, Ah, il se passe quoi, il se passe quoi? Ah non, je peux pas aller me coucher tout de suite. Il est minuit, mais ah, un autre chapitre, un autre chapitre.
Au moment, alors,
c'est ça,
mais oui,
ce que j'essaie de faire.
Ben bravo, Suzanne. Et au moment où on se parle, au moment où on enregistre cet entretien, les livres en question ne sont pas encore tout à fait prêts parce qu'on travaille encore sur le troisième, au montage, à l'édition, tout ça. Mais donc, ils seront sortis, comme vous l'avez dit tantôt très justement, le 8 octobre. Et donc, au moment où j'ai préparé ça, je n'avais pas encore accès un audio du tome 2, notamment, qui est Valérie. Maintenant, tout est disponible, évidemment. Mais j'avais envie de donner quand même un avant-goût à nos auditeurs de ce qui se disait là-dedans. Et là, c'est un petit peu plus dur, évidemment, que l'extrait que j'ai fait entendre du tome 1, Annabelle. Donc, voici, si vous me le permettez, c'est moi qui vais le lire. C'est le chapitre, c'est le début du chapitre 8 du tome 2, donc qui s'appelle Valérie, où Valérie est celle, notamment là, qui se fait kidnapper. Alors, après ce qui lui parut comme une attente interminable, Valérie entend des pas se rapprocher. Son sang se fige dans ses veines et les battements de son cœur accélèrent dangereusement. Elle reste immobile et voit, de ses yeux entrouverts, une silhouette qui s'approche. C'est plus fort qu'elle. Elle est incapable de les ouvrir complètement. Il s'arrête dans l'entrebâillement de la porte. Elle observe en silence pendant plusieurs secondes avant de parler. « C'est prêt. Tu dois avoir faim. » Il se retourne et allait repartir, mais se ravise et fait demi-tour. « Tu peux sortir de la chambre, il t'arrivera rien. Viens vite, ça va devenir froid. » Il se retourne à nouveau et se dirige vers la cuisine sans l'attendre. Incertaine, elle hésite à le suivre. La possibilité qu'il puisse s'agir d'un piège la paralyse, mais l'odeur de nourriture taquine cruellement ses entrailles vides depuis trop longtemps. Elle se lève et s'arrête brusquement sur le pas de la porte, regardant une autre fois autour du cadre. Comme si elle s'apprêtait à sauter d'un avion en plein vol sans parachute, elle ferme les yeux, retient son souffle, étend le pied. Une fois celui-ci de l'autre côté, elle respire à nouveau et ouvre les yeux. Soulagée, elle traverse le petit salon et laisse ses narines la guider jusqu'à la table. Elle cherche du regard quelque chose qui pourrait couvrir sa nudité. Rien. Au moins le poêle à bois, rempli au maximum, ronronne maintenant et une agréable chaleur enveloppe la pièce. Mince consolation. Déjà installé à la table, il mange gloutonnement son repas. Devant lui, un autre bol rempli de potage fumant attend qu'on s'y attaque. Toujours hésitante, Valérie s'approche et s'assoit. Lui continue de s'empiffrer sans la regarder, comme s'il ne l'avait pas vue arriver. Méfiante, elle se demande s'il a empoisonné sa nourriture. Comme s'il lisait dans ses pensées, il s'arrête brusquement de manger, allonge le bras et plante sa cuillère dans son bol. Il la porte ensuite à sa bouche et l'engloutit d'une gorgée. « Inquiète-toi pas, j'ai pas l'intention de t'empoisonner, en tout cas pas tout de suite. » Sans attendre sa réponse, il retourne son attention vers son bol et replonge sa cuillère dans le potage fumant. Il mange avec conviction, faisant fi de la présence de Valérie, puis il lève la tête brusquement, comme s'il venait tout à coup de se souvenir de quelque chose de très important. « Ça fait mal ?» Valérie ne comprend pas la question, il lève nonchalamment l'index et le pointe en direction de son visage avant de retourner à son potage. Alors, on comprend là que Valérie est avec son séquestreur, celui qui l'a séquestré, pour des raisons évidemment qu'on ne révélera pas ici, mais il la tient absolument nue, flambant nue. Là, on comprend qu'elle est dans la cuisine. Ce qu'on ne comprend pas encore, mais là, ça, je pense qu'on peut le dire parce que c'est un détail qui n'est pas anodin et que j'ai trouvé cette espèce d'idée du collier de chien. Électrifiée, c'est-à-dire que lorsque elle ne sait pas à quel moment elle peut recevoir une décharge, voire mourir, c'est pour ça qu'elle hésite à passer la porte.
Exactement.
Voilà. Quelle idée. Vous avez un chien?
Oui, j'adore les chiens.
Oh,
je tiens à le mentionner. J'ai un chien et j'aime beaucoup les chiens.
Parce qu'alors lui, il les aime pas du tout, hein, le monsieur qui séquestre.
Finalement, il n'aime pas grand-chose. Mais quand je pensais à mon intrigue, je me disais, comment... OK, lui, il faut qu'il sorte de cet endroit-là, là où il la garde en otage. Il faut qu'il soit capable d'entrer et sortir comme il veut, lui, parce que lui, il faut qu'il continue la vie, il faut qu'il fasse des choses. Mais pour la garder, elle, est-ce que ce serait efficace, par exemple, de l'enchaîner? Et puis je me disais, non. Psychologiquement... C'est encore pire parce que quand on est enchaîné, ben, la chaîne est là, elle est devant nous, on la voit et c'est un fait accompli. Bon, tant qu'il y a la chaîne, on ne va pas nulle part.
Alors tant qu'il y a de la chaîne, il n'y a pas de plaisir.
C'est exactement. Mais lui, il s'en va, elle est toute seule. Elle peut regarder par la fenêtre, elle peut voir dehors. Ouais. Les portes sont pas verrouillées, mais il la garde à l'intérieur d'une part parce qu'elle est nue, donc il se dit elle va pas se mettre à courir partout toute nue.
Et, ensuite, parce qu'il y a ce collier, voilà, c'est ça.
Et
il y a
elle ce collier
mortel.
Oui, alors, elle est là, et psychologiquement, c'est pire que la chaîne. En tout cas, pour moi, je me disais
absolument.
Que ça a beaucoup plus d'effet.
Ah non, non, c'est absolument machiavélique comme plan, tout ça. Mm-hmm. Dites-moi, Suzanne Payne, pour écrire une trilogie comme ça, il faut en avoir lu beaucoup, hein, des polars. Il faut les aimer beaucoup.
Ben, faut avoir lu.
Oui.
Point. Bon. Pas nécessairement dans ce genre-là. Évidemment, oui, il faut lire dans ce genre-là, mais la lecture, c'est la base de tout.
Bien sûr.
C'est l'outil de travail, hein.
Oui.
Alors, il faut apprendre à le maîtriser. Et puis, sans lecture, ben, c'est vraiment difficile d'écrire, je crois.
Bien sûr.
En tout cas, pour moi.
Suzanne Payne, j'ai lu dans votre bio que vous travaillez dans les médias depuis 20 ans, hein. Donc, l'écriture, c'est un loisir pour vous. À un moment donné, est-ce que l'écriture prendra toute la place?
Peut-être. C'est pas exclu. Évidemment, le travail que je fais tout de suite me convient très bien et je suis très contente de faire ce genre de travail-là. Mais l'écriture, c'est un moment privilégié pour moi. C'est ce qui me permet de remettre mes pendules à l'heure et puis de me recentrer et puis de me reposer entre guillemets. Alors ça me fait beaucoup de bien l'écriture, même si j'écris peut-être pas des choses qui sont reposantes. Moi ça me repose.
D'accord.
Mais oui, c'est certain que je veux dire, j'exclus pas un jour de faire ça à temps plein.
Alors, Suzanne,
très bien.
Il y a deux noms que je voudrais citer avant qu'on se laisse. D'abord, je voudrais dire que vous êtes éditée au Nouveau-Brunswick par l'excellente maison d'édition du personnage.
Oui.
Hein, et ils font un travail formidable pour les auteurs de là-bas, hein, notamment. C'est pour ça que je ne voulais pas manquer de les nommer. Je voudrais aussi nommer Marie-Josée Forget, qui est la lectrice de vos livres et qui fait un superbe boulot, vraiment.
Oui.
Voilà. Alors, Suzanne Payne, je rappelle que depuis le 8 octobre, vos trois livres, les trois livres de cette trilogie qui s'intitule « À toi pour toujours mon amour » et les trois tomes sont Annabelle, Valérie et Joël, sont maintenant disponibles en livre audio à livreaudio.vusevoix.com. Suzanne Payne, merci beaucoup d'avoir accepté pour une deuxième fois de participer à l'émission.
Ben, merci à vous d'avoir pris le temps de discuter avec moi et j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler à un moment donné.
Et pourquoi pas un tome 4? Ou une autre trilogie, non d'accord.
La trilogie est terminée, mais ce que moi j'appelle le numéro 4, qui serait le prochain, est déjà prêt.
Ah!
Donc, on travaille là-dessus.
Eh bien,
on verra.
Eh bien, j'ai vu un Mathieu là-bas qui se frottait les mains. Alors, je pense que tout le monde a très hâte ici qu'on le lise pour notre catalogue. Merci beaucoup, Suzanne Payne, et au plaisir de vous reparler.
Merci à vous, bonne journée.
Au revoir.
Bye.
Le ciel est bleu en bouquet éclatant. J'ai parcouru les forêts hors du temps, mais je ne l'ai jamais trouvé. Rien à perdre ou à gagner, rien à prendre ou à laisser. Oh mon enfant, c'est tes espoirs géants, où où sont passées tes roses en fleurs. Fané mon cœur, ton amour qui se meurt. Ne reste plus que le rosier douleur. Fané mon cœur, ton amour qui se meurt. Ne reste plus que le rosier douleur.
C'est magnifique, ça. L'ami Jean Leloup avec Rosier et Douleur. Comme il me reste quelques minutes pour terminer cette première partie de l'émission des livres plein les oreilles, j'ai envie de vous faire part de cette nouvelle, des nouvelles du livre audio qui concerne Audible. J'ai trouvé ça sur ID Books et c'est la fondatrice d'ID Books, Elizabeth Sutton, qui est conseille en édition numérique notamment, qui nous dit que Audible a inauguré des studios d'enregistrement de livres audio en plein cœur de Paris. Dan Katz, le fondateur et PDG d'Audible, et Constance Stipula, qui est directrice d'Audible France, en ont profité. Ils ont annoncé quelques chiffres d'ailleurs intéressants sur le livre audio lors d'une conférence de presse. C'est de tout cela dont il est question dans ce papier. Il s'agit d'un espace créé pour enregistrer des livres audio en français. Un espace d'une centaine de mètres carrés, c'est dans le 9e arrondissement de Paris. Il y a 3 cabines qui sont équipées de hautes technologies qui peuvent accueillir les comédiens, lecteurs et narrateurs pour l'enregistrement des productions d'Amazon, bien évidemment. À terme, le studio Audible aura la capacité d'enregistrer des titres en binaural. 2 experts du son et de l'audio ont été recrutés pour donner aux productions futures la meilleure qualité d'écoute possible. Honnêtement, je ne sais pas trop moi ce que ça veut dire, mais apparemment, c'est au niveau de la qualité sonore que c'est sublime. Dan Katz a d'ailleurs fait le déplacement des États-Unis pour l'inauguration de cet endroit. Il a expliqué que depuis 20 ans, Audible travaille avec les éditeurs, bien sûr, ça on le sait, et propose aux audios, des audios aux lecteurs de livres audio et des audios de qualité. On en a d'ailleurs enregistré nous-mêmes pour Audible. Le livre audio, dit Dan Katz, est un énorme business maintenant. Nous avons comptabilisé 3 milliards d'heures d'écoute dans le monde. Nous avons des clients, dit-il, dans 190 pays et nous travaillons pour une offre personnalisée dans les différents pays en fonction des différentes cultures. Pour le fondateur d'Audible, l'ouverture de ce studio en France en est la preuve et selon lui, chaque livre qui paraît devrait être proposé en version audio. Il dit qu'Audible propose 470 000 livres audio, 470 000, dont seulement 10 000 sont en français. Il dit c'est insuffisant, c'est pour ça qu'ils veulent atteindre le chiffre astronomique de 100 000 livres audio en français enregistrés dans le 9e arrondissement à Paris d'ici 2025. On aura l'occasion d'en reparler. Vous écoutez Des livres pleins les oreilles, c'est Clotilde Seille en votre compagnie. Restez là, on se retrouve dans quelques minutes. Des livres pleins les oreilles, partie 2. Et dans cette deuxième partie, je vais accueillir, ou du moins je vais m'entretenir au téléphone avec Paul Dubouchet, qui est directrice éditoriale d'Écoute et Lire chez Gallimard, qui va nous proposer 2 de ses coups de cœur en livre audio. Et puis moi, je vais enchaîner avec d'autres trouvailles glanées sur des plateformes à droite et à gauche.
Secrète polichinelle, des clients veulent connaître l'éternel. D'où vient cette chose qui se concentre à disparaître? Les humoristes derniers survivants de la fête. Mais
pointues dans des courbes incongrues. Comme des oiseaux piquant la mer, falsifier la mémoire et reprendre dans le chaos, se baigner dans la mer noire, voir dans la neige des animaux. Barque d'essence, des impies en cortège, de la bière, du pain rance, et les vagues comme la neige. Mais la serveuse concentrée dans une revue où les femmes font les statues dans des courbes incongrues.
Elle s'appelle Paul Dubouchet, elle est directrice éditoriale d'Écouter Lire de chez Gallimard. Je lui ai demandé si elle accepterait de nous parler à l'occasion de parutions audio dont elle serait particulièrement fière parmi tous ces livres audio produits par Écouter Lire de chez Gallimard. Elle devrait être en ligne de Paris. Bonjour Paul.
Bonjour.
Je suis ravie vraiment que vous ayez accepté cette invitation. Je sais que vous avez un agenda très chargé, un petit peu comme le nôtre ici, parce que c'est vrai que le livre audio évolue très vite et commence de plus en plus à faire sa marque, hein, au sein de tous ces projets littéraires. Et j'aimerais un petit peu qu'on en parle ensemble, Paul, vous et moi. Vous êtes directrice éditoriale d'Écouter Lire. Ça fait combien de temps maintenant chez Gallimard qu'il y a cette division consacrée aux livres audio ?
En réalité, ça a commencé en 2004.
Oui.
Donc ça fait quand même assez longtemps. Mais c'était pendant très longtemps, ça a été considéré chez Gallimard comme une collection.
Oui. Et
disons que ça n'avait pas vraiment un statut sur le marché. Il n'y avait pas vraiment de marché. Aujourd'hui, on peut dire vraiment qu'en France, il y a un marché qui explose depuis 3 ou 4 ans,
voilà.
Notamment sous l'impulsion, bien sûr, du numérique. Hein.
Oui, 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 évidemment. Et alors donc, vous, quel est votre rôle en tant que directrice éditoriale, à vous, Paul ?
Ben, vous savez, le rôle d'une direction éditoriale, il est multiple. On est un peu un homme orchestre, hein, une femme orchestre.
Oui.
Et parce qu'il concerne à la fois l'interne, c'est-à-dire les choix de programme,
oui.
les options éditoriales,
oui.
la mise en œuvre des choses, mais il concerne aussi l'externe, c'est-à-dire la commercialisation, la diffusion, les partenariats, la visibilité. Sur les marchés, le marketing. Voilà, moi, je m'occupe par ailleurs, et ça fait partie du dossier visibilité, je dirais, de la commission livre audio auprès du syndicat national de l'édition,
oui.
Qui regroupe une quinzaine d'éditeurs. Et le propos, c'est, depuis 4 ans que nous existons, de faire connaître justement le livre audio, le faire exister, lui donner une visibilité, une plateforme, une vitrine. Donc, pour revenir à votre question initiale, c'est homme orchestre, oui, c'est-à-dire oui. C'est à la fois donner vie à ces livres audio qui viennent eux-mêmes de la littérature papier et à la fois faire s'expliquer sur le rôle, la fonction, l'intérêt, le livre audio comme objet littéraire et non simplement comme substitut du livre papier, c'est beaucoup de choses.
Alors, vous avez vraiment votre place au sein de cette émission des livres pleins les oreilles. Je pense, hein, au témoin d'un doute, mais en France, est-ce qu'il existe une émission comme ça consacrée aux livres audio?
A priori, je crois pas.
Mais nous, on parle de vous, en tout cas. C'est pas parce qu'on est ici, au Québec, à Montréal, qu'on n'en parle pas, parce que je me suis donné comme pour mission de vraiment parler de tout ce qui se fait dans le domaine audio et pas seulement ce qu'on produit ici, chez Vues et Voix, à Montréal. Et je voudrais, s'il vous plaît, Paul, que vous partagiez avec nous peut-être deux de vos coups de cœur. Parmi tous ces livres qui sortent chez Écouter Lire. D'ailleurs, vous en produisez combien à peu près, mettons mensuellement? Il en sort combien à peu près?
On peut dire maintenant, je dirais 6 à peu près.
À peu près 6.
Dont 3 en physique et 3 en numérique.
Oui, je comprends. D'accord. Bon, alors, on parle de quel coup de cœur?
On parle de Fabrice Caro, Le
oui.
Discours,
oui.
Et de Violaine Huissement, Fugitif Pasquerenne. Très difficile de choisir des coups de cœur, parce qu'a priori, tous les ouvrages qui constituent une programmation sont des coups de cœur.
Sinon,
a priori, on ne ferait pas.
Il ne serait pas là, non, je comprends bien. Pourquoi celui-ci? Pourquoi ces deux-ci plus que d'autres? Par exemple, Le Discours. Au départ, Fabrice Caro, c'est un BDiste. Hein?
C'est un auteur de BD.
Ok.
Vous savez, c'est lui qui a écrit et dessiné le célèbre Zai Zai Zai.
Oui.
Si l'amour s'était aimé, oui. Ou moins qu'hier, plus mm-hmm. demain. Enfin, c'est un BDiste. Hein,
et là, tout d'un coup, pouf, il arrive avec un roman.
Tout d'un coup, pouf, oui, absolument. Et c'est un roman qui ressemble à une BD. C'est le récit d'un déjeuner familial, banal. C'est l'histoire le héros s'appelle Adrien, je crois, il est bloqué mm-hmm. dans un déjeuner familial hyper anxiogène, dont le prétexte est les fiançailles de la sœur, forcé d'écouter des débats sur le chauffage au sol et le gratin dauphinois, alors qu'il espère qu'une seule chose, c'est une réponse à un SMS complètement naze qu'il vient d'envoyer à son ex-petite amie. Et la réponse n'arrive pas. Et pendant ce temps-là, le déjeuner se déroule. Et le beau-frère l'enfonce un peu plus en lui demandant s'il serait d'accord pour écrire un discours pour son mariage. Donc c'est tout ça, c'est toutes ces réflexions qui le traversent et qu'il exprime tout haut. Vous savez, en amour, tout est exagéré.
Ben oui, absolument.
Le moindre signe positif, c'est le grand soleil. Ouais. Le moindre signe négatif, on sombre au fond de l'abîme. Et Fab Caro montre ça avec un humour incroyable, une tendresse incroyable. C'est décapant, c'est merveilleux, c'est imaginatif. On est touché. C'est de l'humain à l'état pur, quoi, vraiment. Ouais.
Et alors le choix judicieux d'Alain Chabat, le comédien évidemment, pour lire tout ça.
Il restitue ça.
Irrésistible.
Comme si c'était lui qui l'avait.
Absolument,
écrit,
absolument. Voulez-vous qu'on en écoute un extrait?
Oui, bien sûr.
Allez, on en écoute un petit extrait.
Tu sais, ça ferait très plaisir à ta sœur si tu faisais un petit discours le jour de la cérémonie. Il laisse tomber ces quelques mots, comme ça, sans plus d'ornement, sans même me regarder, appliqué à se servir un verre de vin rouge qu'il vide dans la foulée. Le détachement, l'absence totale de solennité qu'il imprime à cette phrase empêche toute négociation. Débattre d'une telle proposition relève du superflu, voire du grotesque. J'ai beau chercher, je n'y décèle pas l'ombre d'une intonation interrogative. Son autorité naturelle ne s'encombre d'aucune question, de volume sonore, de regard droit. Rien de très élaboré, hein, quelques mots, ça la toucherait beaucoup. Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est tout ce que je trouve à répondre. Ma mère et ma sœur reviennent de la cuisine à ce moment-là. Il ne manquait plus que ça pour me pourrir la soirée. un discours. De ma place, je peux apercevoir le porte-serviette au mur de la cuisine et m'étonne d'être encore traumatisé 30 ans après par ce chef-d'œuvre d'ébénisterie initié par notre professeur de technologie de 6e en guise de cadeau de Noël pour nos parents. Il s'agissait d'élaborer un porte-serviette en forme de sapin à partir d'une planchette rectangulaire. L'exercice avait pour but de nous familiariser avec le tour, la meuleuse, la fraiseuse et autres outils au nom barbare dont l'utilité nous échappait et m'échappe encore aujourd'hui pour tout dire. Nous devions ensuite clouer 3 épingles à linge sur la planchette et le tour était joué, un jeu d'enfant. À ceci près que, très vite, la situation m'échappa et mon sapin se mit à prendre une forme aussi incongrue que périlleuse. J'avais beau tenter de rectifier le tir, scier, meuler, limer, fraiser, rien à faire. J'assistais impuissant à la genèse d'une forme qui prenait vie malgré moi, revendiquait son indépendance avec morgue et rébellion, et je regardais, hébété, paniqué, mon porte-serviette de Noël s'éloigner du concept initial de sapin pour se rapprocher lentement mais sûrement de celui de bite.
C'est top. Alors, lu par Shabbat comme ça, c'est vrai.
Non, mais comme ça, sur un ton monocorde, l'air de rien. Non, mais c'est. Vous savez, moi, quand j'ai découvert le texte, ça, il n'était pas encore sorti. J'avais eu le livre. J'étais en un train. Je revenais, je sais pas où, de Bretagne pour un truc, une lecture, machin. J'étais mais pillée de rire dans le train. C'est-à-dire que je me disais, mais les gens vont me prendre pour une folle. Je n'arrivais même pas à m'empêcher de rire fort. C'était vraiment... Et ce qui est très émouvant, c'est que Fab Caro, il dit qu'il est attiré par les gens qui sont bourrés de failles et de névroses, et c'est ça qui l'intéresse, et c'est ça qui le touche. Mais c'est ça qui nous touche aussi,
ben oui.
Les gens comme nous. Quoi.
Ben oui, absolument. Alors, je voudrais rappeler pour les gens, peut-être qu'ils se joindraient à nous, d'abord qu'ils écoutent l'émission Des livres plein les oreilles. Je suis avec Paul Duboucher, qui est directrice éditoriale chez Gallimard de la division Écoutez lire, qui nous a présenté à l'instant le discours de Fabrice Caro, lu par Alain Chabat. Il y en a un autre, alors on est dans un autre univers complètement dont vous vouliez nous parler, Paul.
Alors, c'est un autre registre, absolument. C'est un registre tout à fait différent, puisqu'on est dans un registre autobiographique. Vous me direz, Caro, c'est peut-être autobiographique aussi, on n'en sait rien.
On n'en sait rien.
Mais Violaine Huysmans, c'est un premier roman, et c'est une sorte d'autobiographie de sa mère, si on peut dire. D'ailleurs, c'est quelquefois au jeu et quelquefois au elle. Et c'est la mère étant un personnage complexe, haut en couleur, survolté, aimante jusqu'à la folie, mais folle d'une certaine manière, puisqu'elle est bipolaire. Et c'est le récit d'une petite fille et de sa sœur, ballottées toutes les deux dans un univers complètement... complètement instable et en même temps bourré d'amour jusqu'à la garde, quoi. Et c'est cette mère qui va le père s'en va et il les quitte à un moment entre internement en hôpital psychiatrique et escapade. Ses deux petites filles sont prises en sandwich comme ça, et on sent l'urgence à écrire ce livre. Elle a écrit, bien sûr, elle a, je sais pas quel âge elle a, Violaine Huysmans, elle doit avoir 35, 40 ans, elle a peut-être 40 ans à peine, enfin.
Mais la voix est très jeune, parce que c'est elle qui le lit, on le sent.
C'est elle qui le lit, elle doit avoir la petite quarantaine, et en fait, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais ce livre, tu le portes en toi depuis longtemps, et elle m'a dit, je le porte en moi depuis l'âge de 12 ans. La mère, elle est très belle, elle fume, elle conduit sur les trottoirs, elle vole dans les magasins. Elle a été danseuse, elle a eu une enfance martyre, elle a été violée, une condition sociétale complexe, avant de rencontrer un homme très riche, le père, qui lui a fait vivre une sorte de vie de rêve. Donc on est dans une sorte de ces deux gamines, elles sont prises dans quelque chose de vraiment... C'est un livre sur le regard de la société, sur l'individu, le regard sur la société, sur quelqu'un qui vient de ce milieu très modeste pour être propulsé dans la haute bourgeoisie, et puis aussi... Plus tard, le regard de la société sur quelqu'un qui n'est pas comme les autres, qui est maniaco-dépressif, quoi.
On va en écouter un extrait, Paul ?
Ouais.
Allez.
Ouais. Maman passait sa vie à se raconter. Elle écrivait aussi compulsivement. Des bribes de phrases, des bouts de pensée, des poèmes avortés sur des blocs-notes, des feuilles volantes, ou même des serviettes en papier déchiré. Avec saxifrage, elle avait voulu faire le récit de son parcours, de sa naissance jusqu'à la chute, Sainte-Anne. mon poème, pour servir d'exemple. En exergue, elle citait Stefan Zweig. Une fois qu'un homme s'est trouvé lui-même, il ne peut plus rien perdre dans le monde. Une fois qu'un être s'est compris lui-même, il peut comprendre tous les humains. Maman, qui croyait tant à l'exhaustion dans ses performances orales, à l'écrit s'était essayée à la brièveté. Cette concision ne lui ressemblait pas. Elle ne rendait pas compte de la complexité de son récit, de sa multiplicité. En relisant son livre, je ne la retrouve pas. Ses phrases ou ses vers me paraissent trop studieuses. Elle ne se serait jamais autorisée à écrire comme elle parlait, avec emphase, avec délice. À mon avis, elle avait tort. Sa voix était tellement plus belle dans son outrance. Ça ne lui allait pas d'être bridée. L'ardeur de sa logorée se devait d'être entièrement libérée de toute contrainte, stylistique ou syntaxique.
Oh, quelle écriture, hein, quelle plume et quel regard, hein, effectivement.
C'est une écriture magnifique. Mmh. Hein, et son deuxième livre qu'on vient d'enregistrer, Rose Désert, est magnifique aussi, vraiment.
Alors voilà, Paul. Mais ça s'est bien passé. On a réussi à prendre un petit 15 minutes. Toutes les deux, on s'est posé pour parler de littérature et ça fait du bien, Paul. Et j'espère qu'on vous réentendra sur les ondes et que vous, avec grand plaisir, eh bien, un plaisir partagé. Et je voudrais rappeler à nos auditeurs que, bien sûr, toutes ces plateformes de livres audio existent. Et là, Gallimard, je dois dire, Écoutez Lire est une de mes chouchoutes. Faut pas le dire pour les autres, mais tant pis, je l'ai dit.
Ça, c'est très bien.
Et non, mais c'est vrai, il y a des gens qui font du très très bon boulot en France et vous êtes à des porte-étendards et nous derrière on suit et on vous suit de très très près, comme vous suivrez aussi de près, je l'espère, notre travail. Merci beaucoup, Paul. À bientôt.
Merci Clotilde, merci à vous.
De rien, au revoir.
J'espère faire valser les vieux fantômes jusqu'à la limite de nos origines pour qu'on puisse donner au soleil son diplôme. Le ménage se fera sans garantie légale. Je regarde au loin, mais les fenêtres sont sales. Faudra au moins s'assurer qu'elles donnent sur l'avenir. Tes bras comme une muraille protègent mon territoire. Viens-t'en régner sur mes détails et nous passerons.
Ça s'appelle « Comme une muraille » et c'était interprété par Tire le Coyote. Il a dû l'écrire d'ailleurs certainement. Cette... Ah non, c'est Tebra, hein. Tebra comme une muraille. J'avais ma bouteille d'eau qui était sur le Tebra. Alors j'ai poussé un peu la bouteille d'eau. Vous savez tout, ici, vous savez comment ça se passe. Mais non, mais il faut dire les choses comme elles sont. Il faut arrêter d'aseptiser les émissions de radio. Là, voilà, ça c'est un micro, c'est ma voix, croc, 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 voilà. Mes amis, je suis allée faire un petit tour pour regarder un petit peu ce qu'on nous proposait à droite et à gauche. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir une promotion chez Apple Books de « Histoire d'un merle blanc » d'un petit jeune qui débute, Alfred de Musset. C'est lu par Guillaume de Louvaincourt ou de Louvaincourt, ça s'écrit L-O-U-V-E-N-C-O-U-R-T, c'est évidemment maintenant du domaine public, ce livre-là, ce conte en fait, ce conte animalier, c'était sorti au départ aux éditions Samarcande et donc ça a été ressorti en 2019, c'était le 13 septembre 2019. Et c'est une exclusivité Audible, mais qui Apple Books en fait la promotion. Ça, il y a des choses comme ça, il y a des zones d'ombre, parfois on ne comprend pas tout, mais je peux juste vous dire que c'est une exclusivité Audible. Quand M. Musset s'essaie au conte animalier, c'est sa vie et c'est son parcours en fait qu'il raconte au travers de cet oiseau rare qu'est le merle blanc. Les souffrances, les déceptions, les chagrins des poètes en général et ceux de l'auteur en particulier y sont présentés gaiement sous des allusions transparentes, il faut bien le dire. C'est un bestiaire imagé et vivant qu'Alfred de Musset a écrit très peu de temps après sa rupture avec George Sand. En voici un extrait.
À la première note qu'il entendit, mon père sauta en l'air comme une fusée. « Qu'est-ce que j'entends là ? » s'écria-t-il. « Est-ce ainsi qu'un merle siffle ? Est-ce ainsi que je siffle ? Est-ce là siffler ? » Et s'abattant près de ma mère avec la contenance la plus terrible. « Malheureuse ! » dit-il. « Qui est-ce qui a pondu dans ton nid ?» À ces mots, ma mère indignée s'élança de son écuelle, non sans se faire du mal à une patte. Elle voulut parler, mais ses sanglots la suffoquaient. Elle tomba à terre à demi pâmée. Je la vis près d'expirer. Épouvanté et tremblant de peur, je me jetai aux genoux de mon père. « Oh, mon père !» lui dis-je, « si je siffle de travers, et si je suis mal vêtu, que ma mère n'en soit point punie. Est-ce sa faute si la nature m'a refusé une voix comme la vôtre ? Est-ce sa faute si je n'ai pas votre beau bec jaune et votre bel habit noir à la française qui vous donne l'air d'un marguillier en train d'avaler une omelette ? Si le ciel a fait de moi un monstre ? Et si quelqu'un doit en porter la peine, que je sois du moins le seul malheureux ? Il ne s'agit pas de cela, dit mon père. Que signifie la manière absurde dont tu viens de te permettre de siffler ? Qui t'a appris à siffler ainsi, contre tous les usages et toutes les règles ? Hélas, monsieur, répondis-je humblement, j'ai sifflé comme je pouvais, me sentant gai parce qu'il fait beau et ayant peut-être mangé trop de mouches. On ne siffle pas ainsi dans ma famille.
C'est charmant, hein? Alfred de Musset, qui s'est essayé à ce conte animalier, enregistré maintenant par Audible et qu'on retrouve sur d'autres plateformes malgré tout, comme par exemple Apple Books, qui fait la promotion ce mois-ci de cette histoire d'un merle blanc, lu, je vous le rappelle, par Guillaume de Louvaincourt. Si vous aimez Alfred de Musset, vous savez qu'il y a d'autres livres en audio qui existent sur d'autres plateformes commerciales. Alors, vous pouvez retrouver notamment On ne badine pas avec l'amour. Alors, ne badinons pas avec le livre audio. Voilà, je vous rappelle que vous écoutez Clotilde Seille. C'est l'émission Des livres plein les oreilles. Restez des nôtres. Dans la troisième et dernière partie de cette émission, je vais recevoir la pétillante, la rafraîchissante Marie-Ève Groux, qui nous arrive en tant qu'autrice et lectrice de chez Vues et Voix. Et puis, qu'est-ce que j'aurai aussi pour vous? Ah ben oui, ce sera le segment de la lecture en direct que je vais consacrer aujourd'hui à deux œuvres de Toni Morrison disparues au mois d'août dernier, le 9 août, si je ne m'abuse. Alors restez des nôtres. Des livres pleins les oreilles, troisième partie. Alors au menu de cette troisième partie, je vais d'abord m'entretenir, je vous le disais, avec la pétillante et rafraîchissante Marie-Ève Groux qui va venir aujourd'hui, non pas tellement à titre de chroniqueuse, ben oui, mais surtout aussi à titre d'autrice et de lectrice d'un bouquin qui, s'il n'est pas encore sur notre catalogue, quoi, c'est une question d'heure peut-être ou de jour. Alors soyez patients, il arrivera très bientôt. Et juste après, ce sera le segment de la lecture en direct. J'ai manqué d'un peu de temps pour aller vous chercher un lecteur. Alors, ce sera moi-même, votre humble lectrice, et qui a choisi de vous lire des extraits de livres de Toni Morrison, qu'à ma grande honte, je n'avais jamais lu auparavant, du moins pas avant qu'elle ne décède le 9 août dernier. Pour l'instant, un petit peu de musique pour laisser à Marie-Ève le temps de s'installer et on la retrouve tout de suite après.
Qui ne sait pas voler? Chasse les oiseaux, qui sous l'eau ne sait pas respirer. Mais qui suis-je donc pour me croire le plus fort, pour me croire tout permis, me donner le droit de vie et de mort. Que dire encore?
Je suis le moins humain des animaux.
Je suis le pire.
Je pense à rien qu'à sauver ma peau.
Pour ainsi dire,
le plus sauvage des fours en cage. Je suis de loin le moins beau.
Qui invente la bombe? Qui se moque?
Je suis le dernier maillon de la chaîne,
à moins que rien.
Lui, à chaque fois, j'ai son nom dans le désordre. On parle bien de Calogéral. Hein?
Et non, pas de Gérald Calo.
Ah, Calogéro. Ah, tu vois, encore une fois, je l'avais dans le désordre. Et j'ai bien écrit, il n'y a rien à faire à chaque fois. Qui nous interprétait Drôle d'animal. Drôle d'animal aussi, qui est arrivé dans mon studio. Bonjour Marie-Ève Grou, ça va bien?
Oui, ça va bien.
Marie-Ève, j'aime ça te sortir de ton bureau où tu as, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs, pas mal la broue dans le toupette. Surtout qu'on voit arriver le salon du livre, hein, là, puis...
Oui, moi j'ai des livres audio dans le toupette.
Oui, c'est ça, c'est entre les deux oreilles aussi. Et là, quand je t'ai dit, bon, Marie-Ève, tu nous parles de quoi? Là, tu m'as dit, peux-tu parler d'un livre que j'ai écrit? Ben, je dis, ben oui, ma cocotte, est-ce qu'il est en audio? Ben oui, il est en train de se faire. Bon, ben j'ai dit, ben alors, qu'est-ce que c'est ce livre? Tu nous fais ça aussi, toi, t'es autrice aussi.
Oui. C'est un livre que j'ai publié en 2017 avec un ami. On a fait un lancement vernissage parce que, et l'un et l'autre, on était trop poules mouillées pour faire un projet de longue haleine, chacun notre bord. Donc, je lui ai dit, ben, écoute, moi, j'aimerais qu'il y ait un aspect multidisciplinaire au livre, à la base, avant qu'il soit en audio, dans la version papier. Donc, le livre est illustré à la fois à la couverture puis à l'intérieur par cet ami-là qui s'appelle Jérémy Maltais. Qui est un artiste, tatoueur, dessinateur très, très chouette. Et moi, je me retrouvais dans l'exposition dessinée comme dans ses portraits. Donc, il faisait. Donc, on a fait ce projet-là ensemble. Et ça traîne un peu sur mes tablettes. Je l'ai fait imprimer par moi-même, publié avec des amis et tout, un peu tête de cochon. Puis
surtout
gênée, je dois l'avouer, de l'envoyer à des maisons d'édition. Et là, la semaine passée, je l'ai enregistré, vue des voix, dans nos studios. Pour le plus grand bonheur, j'espère, de vos oreilles.
Mais tu ne l'as jamais envoyé à nulle part?
Non, je ne l'ai jamais envoyé nulle part.
Tu sais qu'on connaît un petit peu quand même les éditeurs.
Oui, mais j'ai quelques liens maintenant avec les éditeurs quand même.
Bon alors.
Mais sur le coup, c'est que j'avais vraiment envie j'avais pas envie de le faire publier juste pour qu'il soit publié. J'avais envie de faire un livre. Je voulais m'essayer faire un livre.
Je comprends.
Me mettre le nez dans l'édition, me mettre le nez dans le graphisme aussi. Puis je suis entourée d'amis hyper talentueuses. Donc, je me suis dit, tu sais, des collaboratrices, j'en ai à la pelle sous la main. Là.
Alors, comment il s'appelle? Puis de quoi ça parle?
Oui. Ça s'appelle « Où les bêtes s'entremêlent ».
Alors, « Où » O-U...
Avec un accent, oui, voilà. Exactement.
« Où les bêtes s'entremêlent ».
Oui. Les bêtes qui sont pas vraiment, contrairement à la chanson des animaux, les bêtes qui sont plutôt...
Ah, le conte animalier, tu veux dire.
Oui, le conte animalier,
le conte animalier d'Alfred de Musset.
Exactement, exactement. Ma référence était à moitié énoncée. Mais non, contrairement à Musset, j'ai pas d'animaux qui prennent vie dans mon texte. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'humains. L'humain étant un animal, à mon sens. Et je trouve que ça donnait comme plus de sens au rapport aux bêtes, en fait. Parce qu'on est une bête avant d'être civilisé, je dirais. Puis des fois, il y a des événements dans les comportements humains ou des événements dans la vie qui nous ramènent à ce stade-là très animal. Vouloir être aimé, vouloir être en groupe, vouloir être aimé, j'imagine.
Mais alors, ce sont des courtes histoires?
Oui,
ce sont des courtes histoires.
Très, très courtes histoires.
Qui ne sont pas reliées les unes aux autres.
Qui finissent par dresser un portrait, en fait. J'appelle ça un roman par fragment, à défaut d'avoir un meilleur terme. Les fragments se lisent indépendamment les uns des autres, travaillés un peu comme une prose poétique, mais en même temps, ils se dressent un portrait de... pas de la narratrice, mais de ce jeu-là qui se trouve dans... de ce personnage-là au jeu qui se trouve dans le texte, qui finit par dresser un genre de portrait en constellation un peu de sa vie, de qui elle est. Pour moi, l'image de la constellation était très intéressante parce que c'est des points dans le ciel qu'on relie arbitrairement.
Ouais.
La vie, pour moi, c'est beaucoup ça. C'est des événements qui arrivent, qu'on finit par relier, auxquels on donne du sens. Ouais. C'est souvent un sens qui est postérieur à ce qui est arrivé. Ouais. Puis de fil en aiguille, on finit par tisser ces récits-là qui nous construisent, qui nous habitent, puis qu'on projette aussi sur la vie. Donc,
j'ai aussi l'image, tu sais, de ces dessins avec des points qu'on relie comme ça.
Les dessins à numéros,
oui, c'est
un peu comme ça.
C'est ça.
Puis l'histoire, il y a beaucoup de gens qui me disent « on ne sait pas trop si tu t'en vas ». Moi-même non plus. mais j'ai essayé quand même de travailler. Je suis très influencée par, ben, par la musique. J'écoute beaucoup de musique. J'aime beaucoup le cinéma aussi. J'adore la bande dessinée. Donc, il y a cette idée-là de construire un CD, par exemple, où les chansons ne sont pas nécessairement à propos du même sujet, mais où finit par se tramer quelque chose selon comment on les arrange.
Marie-Ève, tu nous en as prévu quoi? Un ou deux petits fragments ou trois petits fragments?
Je peux aller jusqu'à trois parce que c'est vraiment fragmentaire.
C'est vraiment fragmentaire.
C'est tout petit.
Alors allons-y pour tes petits fragments, s'il vous plaît.
Alors le premier fragment que j'ai décidé de vous lire s'appelle La Côte Nord. Parfois je nous revois à Tadoussac. Nos sacs à dos trop lourds, la tente exiguë, les baisers volés. Mais ça ne m'arrive pas souvent. Le dernier matin où t'es allé nous chercher à déjeuner, j'avais décidé d'aller me baigner au lac. Sauter dans l'eau, nu, écrire des poèmes que tu aurais mis en musique. M'étendre sur les grosses racines et écouter les pics-bois, me prendre pour une chanson de beau dommage. Tes accords avaient toujours résonné loin au creux de mon ventre. T'es revenu une fougasse et deux bols de soupe en main, un gros morceau de fromage dans les poches. Je ne me trouvais même pas quétaine. Je t'ai souri, je t'ai suivi jusqu'à la tente. Tu mangeais en silence, mes cheveux dégoulinaient sur les sacs de couchage amoncelés. Je te racontais ma baignade, mes poèmes presque entamés. Tu déchiquetais du pain. Je me suis interrompue, t'as soupiré les yeux tristes en me regardant. T'avais chaud, tu voulais sortir de la tente, je comprenais pas. Le silence. T'es sorti de la tente. J'ai fini ma soupe, la poésie en travers la gorge. Je ne comprenais pas. Mes cheveux dégoûtaient encore et j'avais froid. Je ne trouvais pas mon chandail de laine dans le tas de couverture. Par l'ouverture de la tente, je ne voyais que ton dos. Ta tête auréolée de la fumée de ta cigarette. Ça va? Non. Je ne comprenais pas. J'ai refait mon sac à dos, mes affaires éparpillées dans 2 mètres carrés pendant que dehors tu fumais à la chaîne. Quelques mètres plus haut, la 138 nous faisait parvenir ses échos, remplissait le silence que Beau Dommage avait laissé. Après, j'ai vainement essayé de faire du pouce jusqu'aux Escoumins, pour partir loin. Mais mes larmes traçaient des grandes coulisses sur ma pancarte en carton de caisse de bière vide. J'ai appelé Paul. Est-ce que je peux dormir sur ton divan? Mes gros sanglots déboulaient plus vite que mes mots, des rimes tristes, des soubresauts de cerfs blessés. Ben oui, viens-t'en, je t'attends. Je ne sais plus l'heure à laquelle je suis arrivée. Depuis une traversier, le fjord était noir. Il m'a emmenée sur la grève après m'avoir sortie du divan. On a marché sans rien dire. Nina Simone en filigrane dans ma tête, les vagues étaient douces à mes oreilles. Black is the color of my true love's hair. Paul m'a passé un joint. Tiens, ça va te faire du bien de penser à rien.
Deuxième fragment.
16e avenue.
Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse?
Oui, vas-y.
J'adore ça.
Merci.
Mais vraiment, j'adore ces images, je peux le dire. Puis en plus, c'est rare qu'on puisse comme ça directement...
Commenter,
parce que souvent, moi, j'ai lu le bouquin avant. Là, j'ai pas lu.
Hein, zéro, ça, t'es dans la surprise totale. Ouais.
Et j'adore ça, ce mélange, bon, d'abord de poésie, de chansons qu'on entend. Et tout d'un coup, il y a ce petit morceau qui est d'un réalisme, j'allais dire pitoyable, je veux dire parce que c'est la vie, de l'autre qui émiette le pain. Ah, je trouve ça génial.
J'adore la poésie de Stéphane Lafleur, le chanteur d'Avec Podcast, où je trouve que des fois, il y a des situations qui arrivent à dresser en quelques phrases, le décor est planté, puis en une twist tout d'un coup, grâce à juste une petite anicroche dans l'image quasiment, il y a un sentiment qui est plus grand que l'image qui se développe.
Absolument.
Je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans cette poésie-là quotidienne.
Un autre.
Le deuxième s'appelle 16e avenue. C'est en hommage à la Chine où j'ai grandi. Alors, 16e avenue. La petite voisine qui habitait juste derrière chez nous était ma partenaire de rechange quand mon frère se lassait d'être sous ma direction. Je passais par le trou de la clôture qui n'en était pas vraiment un. On avait mal installé la nouvelle clôture des années auparavant, sans la fermer complètement. Il restait donc un maigre espace où je me glissais pour aller jouer chez elle. Je ne me rappelle pas son prénom, Stéphanie ou Josiane, un prénom de petite fille des années 90. Un jour, je suis devenue trop grande pour passer par la clôture, et il ne m'est jamais venu à l'esprit de faire le tour du bloc. On ne s'est plus revus. Ou quelquefois, j'imagine. Comme cette fillette qui était déménagée au bout de la 16e avenue, près du bord de l'eau. On avait le même habit de neige, elle en bleu, moi en rouge. J'ai des photos du verglas de nous parmi les branches cassées sous l'érable. Je ne sais pas qui a pris la photo, peut-être maman. Je ne sais pas si on y a joué longtemps avant qu'un adulte ne se rende compte que d'autres branches pourraient tomber. On m'a toujours épargnée d'une enfance tragique, même cet hiver-là de 98. Elle est déménagée peu de temps après sur une des deux rives bordant Montréal, l'autre bout du monde quand t'as même pas 10 ans. De cet hiver-là, il ne reste aucune bonne photo, parce que l'électricité ne fonctionnait pas et que le flash de l'appareil photo s'était brisé à la fête des mères l'année d'avant. C'est une zone sombre, parsemée de détails qui vont dans tous les sens, et des photos où on ne discerne que des silhouettes floues. Mes cousins dormant sur des matelas de sol, la lumière basse du soleil dans la cuisine, les chandelles qui angoissaient maman, un pique-nique improvisé dans mon lit, les écoles fermées, une dame qui tombe sur le trottoir gelé, mon goût pour les bas collants en laine en dessous de ma salopette et maman qui me dit que je vais sûrement avoir trop chaud. Je les avais mis quand même et j'avais sûrement eu chaud.
J'adore ça. C'est Marie-Ève Groux que vous entendez à l'émission des livres plein les oreilles. Marie-Ève qui travaille ici en communication. Je pense que Mathieu Tessier apprécie bien aussi parce qu'on a vu, on a vu plusieurs lumières s'allumer en studio. C'est vraiment très chouette. Puis ce qui est fantastique, c'est qu'on s'aperçoit à quel point, moi, pour moi, 1998, c'était avant-hier, quoi. Mais pour toi, en 98, donc, t'avais quoi? T'avais...
Moi, j'étais à la maternelle. J'avais 5 ans.
Oh, mon Dieu.
Ouais.
Je revois les arbres. Je revois les arbres craquer. Je revois les soldats dans la rue.
Ah,
je revois
la...
tout
mais
ça.
C'était la fête chez nous. Je comprenais pas. Pour moi, il y avait comme un igloo derrière. Il y avait... C'était des vacances, de la relâche avant que ça arrive pour vrai, tu sais.
Ah, belle jeunesse. Marie-Ève, c'est un bonheur, vraiment, de t'avoir à cette émission-là.
Plaisir.
C'est un vent de fraîcheur qui déferle à chaque fois. On va te retrouver dans 2 semaines pour un spécial Halloween.
Oui.
Parce qu'on a plein de bouquins qui font peur.
Je suis en train de vous préparer
dans
un
notre
très beau
catalogue.
Spécial.
D'accord, super. Merci.
Tu cherches ta vie en dans ton village, entre les plages blanches et le Cap Martin. Ton seul ami parle à des mirages, puis toi tu te dis qu'il serait peut-être temps de faire ton chemin. Y'a pas une fille ici aux 1000 carrés, y'en a pas eu depuis les 6 mois passés. Y'a juste des vieux, des bums, puis des millionnaires, puis en hiver y'a juste plus personne. Viens danser, aller avec les boulots. Tu peux être sûr que personne pour rire dans ton dos. Y'a la mousse qui pousse sur la toiture de ton chat comme un pansement sur la pourriture. Peau d'agneau est remplie de cicatrices qui se parlent toute seule. Toi, tu te fermes la gueule. T'aurais fait naître un beau bébé d'or, mais on te l'a tué avant que tu puisses le voir. Ah, 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 ah. Fait que viens pleurer tes pleurs au pied des bouleaux. Y'a pas de chagrin qui vaille qu'on le porte sur notre dos. Y'a de la mousse qui pousse dans tes yeux d'amoureux comme un bandage sur tes jours heureux. Pour chanter sous le clocher, il y a toujours du poisson au quai qui mord, même si on veut leur frère se faire arracher le corps. Ah, 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 ah. Fait que viens planter les pieds au pied des bouleaux, laisse les corbeaux grimper des jambes à ton dos. Y'a de la mousse qui pousse dans les yeux du village.
Clément Simon sur les ondes de Canal M et toujours Clotilde Seille pour vous présenter Des livres pleins les oreilles. Laissez-moi vous rappeler le titre du livre de Marie-Ève Groux que j'ai accueilli un petit peu plus tôt. J'avais oublié de vous redonner le titre et c'est pas bien. Où les bêtes s'entremêlent, un livre qui sera bientôt, s'il ne l'est déjà, disponible en audio sur notre catalogue livreaudio.vusetvoix.com. Alors maintenant, bien ce segment que j'ai inauguré la semaine dernière est consacré à une lecture en direct, puisqu'après tout, cette émission est consacrée aux livres audio, aux livres qui s'écoutent. Eh bien, pourquoi ne pas vous lire quelques extraits de livres, peut-être en rapport avec l'actualité. Il y a quelques semaines, l'actualité littéraire était consacrée à la triste disparition de Toni Morrison. Chloé Ardelia Wofford Morrison, mieux connue donc sous le nom de Toni Morrison, née le 18 février 1931 à Lorain, en Ohio, et morte le 5 août dernier à New York. Madame Morrison, romancière, essayiste, critique et littéraire, dramaturge, librettiste, professeure de littérature et éditrice américaine, grande dame des lettres américaines, lauréate du prix Nobel de littérature en 1993, remarquable conteuse qui a publié 11 romans qui explorent les différents versants de l'expérience noire aux États-Unis. Ce sont des romans d'une rare puissance qui tournent tous autour des thèmes de la race, de l'esclavage, de l'inceste, du viol et de la rédemption. L'œil le plus bleu est peut-être un de ces 11 romans les plus célèbres. Un petit résumé, on est avec Pecola qui priait chaque nuit pour avoir des yeux bleus. Elle avait 11 ans et personne ne l'avait jamais remarqué. Mais elle se disait qu'avec des yeux bleus, tout serait différent. Qu'elle serait si jolie que ses parents arrêteraient de se battre, que son père ne boirait plus, que son frère ne ferait plus de fugue. Si seulement elle était belle, si seulement les gens la regardaient. Quand quelqu'un entra, la regarda enfin, c'était son père, il était ivre. Elle faisait la vaisselle, il la violait sur le sol de la cuisine, partagée entre la haine et la tendresse. C'est le premier roman de Madame Morrison, Toni Morrison, qui ensuite nous a donné Beloved, notamment, ou encore Jazz. Voici un extrait de ce livre, L'œil le plus bleu. Cela avait commencé avec Noël et les poupées qu'on recevait en cadeau. Le gros cadeau spécial et tendre était toujours une grande poupée aux yeux bleus. D'après les rires bêtes des adultes, je savais que cette poupée représentait ce qu'il pensait que je désirais le plus. J'ai été stupéfaite par l'objet lui-même et ce à quoi il ressemblait. Qu'est-ce que j'étais censée faire avec elle? Jouer à être sa mère? Les bébés et le concept de maternité ne m'intéressaient pas. Je ne m'intéressais qu'aux êtres humains de mon âge et de ma taille et je ne pouvais manifester aucun enthousiasme à la perspective d'être mère. La maternité, c'était la vieillesse et d'autres possibilités lointaines. Cependant, j'ai vite appris ce qu'on attendait que je fasse avec la poupée. Je devais la bercer, inventer des situations autour d'elle et même dormir avec elle. Les livres d'images étaient remplis de petites filles qui dormaient avec leurs poupées. En général, des poupées en lambeaux, mais pour moi, il n'en était pas question. J'étais physiquement révoltée et secrètement effrayée par ses yeux ronds et crétins, par cette face de Mardi Gras et ses cheveux qui ressemblaient à des vers de terre orange. Les autres poupées, qui étaient censées me donner beaucoup de plaisir, atteignaient l'effet exactement inverse. Quand je les prenais dans mon lit, les jambes raides et dures s'enfonçaient dans ma peau, les doigts boudinés m'écorchaient. Si je me tournais en dormant, je me cognais dans la tête froide comme de l'os. C'était une compagne des plus inconfortables et tout à fait agressive pour dormir. La tenir dans mes bras ne m'apportait pas plus de plaisir. La gaze ou la dentelle amidonnée de la robe en coton rendait irritante, toute étreinte. Je n'avais qu'une envie, lui arracher les membres, pour voir de quoi elle était faite, pour en découvrir la tendresse, pour trouver la beauté, l'aspect désirable qui m'avait échappé et apparemment à moi seule. Les adultes, les filles plus âgées, les boutiques, les magazines, les journaux, les vitrines, le monde entier était d'accord pour reconnaître qu'une poupée aux yeux bleus, aux cheveux blonds et à la peau rose était ce que toute fille adorait, toute petite fille adorait. « Regarde, disait-il, c'est beau, et si tu le mérites, tu l'auras peut-être. » Je palpais le visage en m'étonnant des sourcils faits d'un seul coup de pinceau. Je tirais sur les dents nacrées coincées comme deux touches de piano entre les lèvres arquées et rouges. Je suivais le nez retroussé, je crevais les globes oculaires bleus et vitreux, et je tordais les cheveux blancs. Je n'arrivais pas à l'aimer, mais je l'examinais pour comprendre pourquoi tout le monde la disait adorable. Si je cassais les doigts minuscules, si je tordais les pieds plats, si j'arrachais les cheveux, si je faisais tourner la tête, la chose émettait un bruit. Il disait que ce cri tendre et plaintif était « maman ». Mais pour moi, ça ressemblait au bêlement d'un agneau en train de mourir. Ou plus exactement, à la porte de notre glacière tournant sur ses gonds rouillés en juillet. Si j'arrachais les yeux froids et stupides, elle bêlait encore. Ah ! Si j'enlevais la tête, si j'en faisais tomber la sciure, si j'écrasais le dos contre le pied de lit en cuivre, elle bêlait. Le dos de la robe en gaz se déchirait et je voyais le disque avec six trous, le secret du bruit, un simple rond en métal. Les adultes fronçaient les sourcils et faisaient des histoires. « Tu ne fais jamais attention à rien. Je n'ai jamais eu de poupée de toute ma vie et j'ai versé toutes les larmes de mon corps pour en avoir une. Maintenant, tu en as une et une belle et tu la casses. Qu'est-ce que tu as ?» Leur indignation était à son comble. Leurs larmes menaçaient de détruire la distance que créait leur autorité. L'émotion accumulée pendant des années de désirs insatisfaits pointait dans leur voix. Je ne savais pas pourquoi je cassais ces poupées, mais je savais que personne ne m'avait jamais demandé ce que je voulais pour Noël. Si un adulte ayant le pouvoir de combler mes désirs m'avait pris au sérieux et m'avait demandé ce que je voulais, il aurait su que je ne voulais rien à moi, que je ne voulais posséder aucun objet. Je voulais plutôt ressentir quelque chose le jour de Noël. La vraie question aurait dû être « Ma chère Claudia, qu'aimerais-tu connaître à Noël ?» J'aurais répondu « Je veux m'asseoir sur le petit tabouret dans la cuisine de maman, les genoux couverts de lilas, et écouter papa jouer du violon pour moi toute seule. » La taille du tabouret faisait pour moi le sentiment de sécurité et la chaleur de la cuisine de maman, l'odeur des lilas, la musique, et pour que tous mes sens soient de la fête, peut-être après, le goût d'une pêche. Quelle écriture, hein, de Madame Toni Morrison. Quelles images, des contrastes, une syntaxe absolument fantastique, surtout à lire à haute voix. Je peux vous dire que cette femme-là écrivait à haute voix. Lorsqu'on lit aussi facilement un texte, lorsque les mots coulent aussi simplement comme ces mots-ci que je viens de vous lire et qui, je vous le rappelle, étaient extraits d'un livre de Madame Toni Morrison, un livre qui s'appelle « L'œil le plus bleu », eh bien, ça veut dire que l'auteur écrivait à haute voix, ou du moins se corrigeait à voix haute. Pour lire du Toni Morrison, pour faire comme moi, peut-être que vous n'en aviez jamais lu avant sa disparition, ouvrez des bouquins de Toni Morrison. Vous les retrouvez pour la plupart, bien sûr, sur des plateformes commerciales. Mais vous savez qu'il y a aussi des livres qui sont accessible via le SQLA et signé Toni Morrison. C'est notamment le cas de Beloved, qui est aussi un livre magistral écrit par Toni Morrison. Et puis Home aussi, dont j'aurais bien aimé vous lire un extrait si j'en avais eu le temps. Mais je vous garde ça pour un autre jour. Voilà, ainsi s'achève l'émission des livres plein les oreilles pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie et même de la partager si vous êtes vous-même des passionnés de livres audio. Merci à Suzanne Payne, Paul Dubouchet et Marie-Ève Groux qui étaient mes invités. C'est Clotilde Seille qui vous souhaite une belle semaine et de belles lectures. À la semaine prochaine.